Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'une manifestation antiraciste, antifasciste et contre la violence d'État, une manifestation qui avait lieu samedi 14 mars au Mans à l'appel de la Marche des Solidarités. 200 personnes étaient présentes place de la République vers 16h et sont allées dire leur antiracisme, leur antifascisme et leur rejet des violences d'État dans les rues du Mans, en commençant par la rue des Minimes, pleine de chaleur, effectuant des achats comme chaque samedi après-midi. Mais l'arrêt devant, j'ai pas le droit de le dire, et les slogans trop, j'ai pas le droit de le dire aussi, risquent de nous faire déborder sur la droite du coup. On vous en reparlera la prochaine fois. On aurait pu vous parler de la guerre et de leurs profiteurs. On se souvient que la guerre éternelle est une aubaine pour le premier ministre israélien qui n'a pas à honorer ses rendez-vous avec la justice. Le dernier était au mois de janvier. Ah, je peux pas. J'ai guerre. Pour de vulgaires histoires de corruption, monsieur Benjamin Netanyahou à la justice de son pays aux fesses. Et pour le président des États-Unis, l'affaire Epstein est de fait invisibilisée par le conflit et ses conséquences. Ah, bien sûr, ce ne sont pas les seules raisons de la guerre au Moyen-Orient. On peut ajouter les égos des susnommés. On peut ajouter également les gages donnés aux suprémacistes juifs présents dans le gouvernement israélien et à la Knesset. Ce qui fait dire par exemple à Benjamin Netanyahou que Jésus-Christ, c'est à peu près pareil que Genghis Khan. On voit. L'idée, c'est de dire aux juifs suprémacistes de son gouvernement et qui sont à la Knesset, continuez à me soutenir. Le résultat le plus visible de ce conflit, ce sont les morts, bien sûr, les blessés, les déplacés de force en Iran, au Liban. Et moins visible, mais quand même documenté, les assassinats et les opérations de nettoyage ethnique de suprémacistes juifs, encore eux, en Cisjordanie. Et les bombardements et opérations de maintien de l'ordre par Tsahal dans la bande de Gaza. Cependant, en Occident, la conséquence la plus prégnante, c'est la hausse des prix sur plein de trucs, plein de produits. Par exemple, les billets d'avion quand les populations veulent partir des zones de guerre. Ah ouais, là, les prix ont flambé. Il faut dire que pour un libéral, toute opportunité est bonne à prendre. Et la peur pour sa vie est un facteur très facile à utiliser. Entre ses actions Thalès et sa peau, le Pékin moyen, qui était parti faire un petit tour à Dubaï, a choisi le plus souvent sa peau. Et il revend donc ses actions Thalès. Oh, pourtant, c'est con. Les actions Thalès, elles sont en augmentation. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui font des missiles. Mais pour faire du business sur la peur, ça marche, mais c'est pas la seule opportunité. On apprend cette semaine que les mercantiers appliquent une hausse des prix sur les pneus, sur les engrais artificiels déversés par millions de tonnes chaque année sur les terres agricoles, sur le bitume bien sûr, puisque c'est un sous-produit du pétrole, sur tout ce qui est lié au pétrole, sur les peintures, les solvants, les fibres synthétiques et tous les autres plastiques, j'en passe et du pire. Ce qui nous permet de réaliser la dépendance des libéraux et du capitalisme au pétrole et au gaz. Nous, a priori, on pourrait peut-être s'en passer dans plein de trucs, si on n'était pas obligé régulièrement d'aller mettre de l'essence dans un véhicule à moteur à explosion pour aller sur son lieu d'exploitation qui, je le rappelle, a été organisé par les libéraux et les capitalistes qui, soi-disant, nous gouvernent. Eh bien, tout ce petit beau monde, est très, très dépendant au pétrole et au gaz, aux sources énergétiques, dont la plupart des Pékins moyens se soucient peu. Les producteurs anticipent que leurs stocks vont bientôt coûter plus cher quand ils ont besoin, justement, de matières pétrolières et de gaz pour en faire. Alors, ils remontent les prix, par anticipation. Ah bah oui. Hausses qui sont répercutées par les intermédiaires qui peuvent être tentés de se faire un petit billet sur le dos de la guerre et le consommateur final paye. N'oublions pas que le consommateur final, qui est sommé de consommer, ne sert qu'à ça. Dans le schéma libéral de la société de consommation, le consommateur final paye. Enfin, la guerre, c'est le bon plan pour ceux qui sont les plus loin. Et voilà qui en sont les plus loin. Et voilà comment le tourisme intra-européen reprend du poil de la bête aux dépens des destinations moyen-orientales, à tel point que les Émirats Arabes Unis mettent des gens en garde à vue quand ils postent des images de la guerre à Dubaï ou dans le reste du pays sur leurs réseaux sociaux. Dans ce monde qui est pourri, oui. Mais dans un monde qui n'est pas pourri par l'idée de gagner du pognon et du pouvoir à tout prix, imaginez, pour chaque conflit, les populations imposeraient à ses représentants de faire pression sur les belligérants pour que ça s'arrête. Et ça s'arrêterait. Mais dans le nôtre de monde, l'intérêt bien compris de nombreuses catégories sociales laisse la population sans voix audible. Et les médias se contentent de constater le nombre de victimes en remettant souvent en cause les chiffres donnés par d'autres sources que les sources occidentales. Notre impuissance collective fait flipper. Non, Ah bon ? On aurait pu également vous parler des élections municipales et surtout de la manière dont on en parle dans les médias. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de parler de la... ni de... Eh bien, ah, encore moins de... Enfin non, c'est pas maintenant. On a choisi une radio d'État, une radio de service public, oui, parce que pour le privé, détenu par des milliardaires, c'est peut-être même pas la peine d'en parler. Donc adressons-nous au service public. Ainsi, sur France Info, dimanche 15 mars, vers 10h40, on pouvait entendre ça.
Profitons de cette élection pour nous pencher sur le rôle du maire dans la commune. Bonjour Dorian Dreuil.
Bonjour.
Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. D'abord, il faut le dire, ce maire, les Français l'aiment beaucoup. En tout cas, c'est l'élu auquel ils font le plus confiance.
Ben et les autres ? Ouais, dès le départ, un malaise s'est installé dans mon petit cerveau. Le maire. Le maire n'est que le président du conseil municipal et pourtant le journaliste oublie de parler des autres membres du conseil municipal. D'entrée de jeu. Ouais. Il angle son propos sur le maire et personne d'autre. Bon, dès la deuxième question, l'expert commence à ramer pour rappeler que le maire n'est pas seul. On reprend.
Est-ce que ce lien s'explique aussi par le fait que le maire apparaît aujourd'hui comme l'élu qui peut le plus agir sur le quotidien ?
Oui, d'une certaine manière, c'est vers le maire, ou en tout cas vers sa mairie, qu'on se tourne pour régler un peu tous les soucis du quotidien et vers lequel, du coup, on projette aussi le plus de responsabilités. Pour autant, les responsabilités du maire et des communes, elles sont assez limitées.
C'est-à-dire bah, il a essayé un bel effort. Oui, le maire, mais aussi la mairie. Le maire, mais aussi la commune. Ah, mais rien n'y fait. Ah, pour le journaliste, en tout cas. Alors que l'expert parle des autres échelons administratifs, les com-com, la place de l'État à travers la préfecture, le journaliste place une autre question. C'est parti.
On va y venir justement en détail parce que c'est vrai que depuis les années 90, ce maire, il a petit à petit perdu de son pouvoir avec la mise en place notamment des intercommunalités, ce qu'on appelle les communautés d'agglo, les communautés de communes, c'est ça ?
Le maire perd de son pouvoir. Et conseiller, le conseil municipal, la démocratie, le fait que ce soit une décision collective et non pas la décision d'un seul. Écoute, ça ne devait pas faire partie de la formation du journaliste en question. Le maire est toujours seul. Le capitaine du navire, le grand timonier, le guide, oui. Oh, ça fait mal un petit peu. On a eu des exemples de personnes qui nous guidaient comme ça dans la nuit. Pas une trace des conseillers municipaux et encore moins de la population dans l'exercice du pouvoir. Alors l'expert n'a pas lâché l'affaire. Hein. Il rappelle que le maire est le chef de l'exécutif municipal et donc il met en place les décisions du conseil municipal et pas les lubies du maire. Non, normalement. Hein. Il explique aussi comment fonctionnent les Comcom et les autres EPCI. Mais cause toujours tu m'intéresses, question suivante.
Qui mettent en commun des compétences et qui mettent en commun des compétences des différentes communes au sein d'intercommunalités.
Et aussi si on prend un exemple très concret, par exemple, quel pouvoir du maire est passé dans les maires, dans les mains des intercommunalités ?
Alors, vous avez certaines...
Les pouvoirs du maire. Voilà, encore et toujours les pouvoirs du maire. Ce ne sont pas les pouvoirs du conseil municipal. Non, ben ça a disparu du paysage, on vous l'a dit depuis le début. Hein. Pourtant, au Mans, par exemple, le conseil municipal réunit 55 personnes quand il est complet pour prendre des décisions à 55. Attention, toujours à propos des relations entre les intercommunalités et les communes, acmé de l'interview. Et c'est encore la question suivante. À chaque question, il y a un petit truc qui ne va pas.
Mais un maire, par exemple, ne peut pas décider de construire seul une ligne de tramway dans sa ville.
Ça va dépendre, et c'est là où c'est la particularité, ça va dépendre.
C'est dingue, hein, le maire, une ligne de tramway dans sa ville. Ouah, c'est redondant, hein. Oui, j'ai l'impression de vous redire à peu près la même chose. Bah, il faut dire que le journaliste en question, là, passe son temps à nous dire un peu n'importe quoi. La démocratie a disparu des radars, hein, la population est un mirage. Le journaliste appuie alors sur la touche dramatisation. Et si un conflit était en germe, ça concerne toujours pas la population ni le conseil municipal, hein.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup de méfiance, voire de défiance des maires vis-à-vis des intercommunalités ?
On pourrait dire plutôt qu'il y a une méconnaissance des citoyens, on peut dire, sur la manière dont sont désignés les présidents, vice-présidents de ces intercommunalités, qui y siègent, quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs enjeux. Donc il y a un enjeu très fort et un enjeu démocratique de pédagogie, en fait, sur le partage des compétences, sur ce qui relève de la mairie, sur ce qui relève des intercommunalités, des métropoles, et on pourrait dire d'une certaine manière aussi sur ce qui relève d'autres compétences de collectivités territoriales, parce que le citoyen est parfois du mal à comprendre ce qui relève de la gestion du conseil départemental ou de la région ou de leur commune. Si on prend par exemple...
Bon, ben, l'honneur est sauf, hein. C'est l'expert qui l'a sauvé, ça craint quand même. L'honneur est sauf grâce à cet expert dans cette interview où la pédagogie était en PLS hein, depuis le début. La personnalisation extrême du pouvoir a servi de fil rouge durant 2 minutes. Je vous dis des bêtises, durant 6 minutes d'interview, cette personnalisation du pouvoir dont nous avions parlé récemment avec Thomas Simon de la coopérative Fréquence Commune. Qu'en disait-il ? C'est parti.
Oui, c'est un vrai sujet qui est travaillé par les listes citoyennes participatives parce que le pouvoir aujourd'hui, il est très incarné. On voit dans les listes que les discussions sont notamment autour des affiches. C'est anecdotique, mais est-ce qu'on met une affiche, une personne en les affiches électorales? Est-ce qu'on va mettre en avant la tête de liste, un binôme, un trinôme, le collectif derrière? Voilà, c'est la question et c'est surtout la capacité de délégation de pouvoir de la personne en haut de l'affiche, que ce soit un maire, un président d'intercommunalité ou un président du pays, je veux dire. Déjà, la méthode de désignation de cette personne-là va compter sur qui on va choisir. Est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui est capable de se mettre en avant ou est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui est capable de déléguer le pouvoir et qui va être mis en avant par le groupe? Donc nous, on utilise des élections sans candidat pour choisir les têtes de liste. C'est pas du tout la même manière de désignation et dans la mécanique de vote, ça crée le fait que c'est pas les mêmes personnes qui y vont du coup parce que c'est le collectif qui choisit, c'est pas des gens qui se mettent en avant. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est que le système aujourd'hui est très très organisé autour de notamment du maire ou du président de l'interco, c'est-à-dire par exemple il a des collaborateurs, à Poitiers la maire elle a 7 personnes qui travaillent pour elle, qui lui font les notes et tout, donc ça lui donne énormément de pouvoir. Et donc il y a à plein d'endroits comme ça, il y a énormément de choses à inventer pour diminuer le pouvoir du maire et de la maire, pour dépersonnifier, pour penser collectif. La maire de Poitiers, elle le fait très bien, elle dit du « nous » tout le temps, elle met en avant ses adjoints, elle dit « moi, je ne sais pas ça », demandez à l'adjoint concerné. Donc voilà, c'est tout ça, mais ça, c'est une culture collective à réapprendre, d'arrêter d'attendre un messie, un chef éclairé qui va trouver des réponses à nos problèmes, mais de se dire qu'on va les trouver collectivement et qu'on n'a peut-être pas besoin d'une personne identifiée, mais de plusieurs. Et donc, concrètement, là, pour terminer, ça se traduit par des binômes, des trinômes tête de liste qui sont mis en avant par les listes participatives, déjà pour passer de 1 à 2, 3, et le collectif qui est mis en avant, voilà. Mais ça, c'est une bataille culturelle collective qui prendra aussi des années.
Une bataille culturelle dans laquelle, finalement, on ne pourra pas vraiment compter sur nos soi-disant représentants. Le mauvais acteur, mais vrai banquier qu'on a à la tête de l'État, il parle son temps à dire « je ». Non, mais de toute façon, qui sommes-nous pour faire partie de ce qu'il a à dire? Eh bien, on ne pourra pas compter non plus sur la presse d'État. Peut-être sur des experts. Allons bon. Et comment il s'appelle celui-là? Attention, dernière intervention.
Merci beaucoup Dorian Dreuil, directeur d'études de l'Institut Bonafide, pour ce petit rappel sur le rôle, le pouvoir des maires, les maires que nous allons donc élire aujourd'hui, premier tour des municipales.
Et bing, fin de plateau, une nouvelle ânerie. Eh les gens, on n'élit pas le maire ou la maire. Non, on élit le conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui élit le chef de l'exécutif municipal, qui n'est que le représentant de la volonté générale. Enfin ça c'est en démocratie, hein. C'est pas en démocratie représentative. Bon bah finalement, on a préféré continuer à vous parler de forêt. On va continuer à vous parler de forêt à travers l'interview de Alain Persuit que nous avions fait en janvier 2024, qui se présente d'ailleurs lui-même.
Voilà, je m'appelle Alain Persuit, je suis forestier écologue de métier. Depuis pas mal de temps maintenant, j'essaye de rencontrer un maximum de gens pour leur parler des problèmes que rencontre la forêt, notamment de l'industrialisation de la sylviculture, et des moyens de répondre en tant que citoyen, tout le monde n'est pas forestier ou écologue, des moyens de répondre à cette pression sur nos forêts, parce que ça fait partie d'un patrimoine qu'on peut considérer comme étant en danger.
Alain Persuit, nous l'avions rencontré en janvier 2024 à la librairie Thuard à l'occasion de la présentation de son livre « Sauver les forêts » qui est apparu en 2022 aux éditions Double Ponctuation dans une collection qui s'appelle « Point d'exclamation ». Décidément, ils aiment ça. La dernière fois, nous avions parlé des plantations, ces alignements d'arbres à faire pousser rapidement et à abattre aussi rapidement pour avoir du bois, ce que les forestiers appellent de la liniculture. Alain Persuit, lui, défend les forêts et non pas les plantations. On va d'ailleurs l'écouter sur le sujet. Ça dure un peu plus de 14 minutes et on se retrouve après. Comment on pourrait définir ce qu'est une forêt ?
Alors une forêt, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. D'ailleurs, avant de parler de ce qui va mal, il faut essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est l'écosystème forestier. Une forêt, ce n'est pas seulement des arbres. Une forêt, ce sont des milieux naturels associés à la forêt, les landes, les tourbières, les mares, les ruisseaux, les lacs. Et puis la faune et la flore qui vivent dans cet écosystème. Donc c'est un ensemble. Si vous avez un milieu qui n'est composé que d'arbres, et sans rien d'autre, c'est plus une forêt justement. En tant qu'écosystème, je parle bien de l'écosystème. Écosystème, c'est un biotope, c'est-à-dire un support de vie physique, le sol par exemple, sur lequel vit une biocénose, l'ensemble des vies animales et végétales qui vit sur ce biotope. C'est ça la forêt. C'est tout sauf une forêt de plantation.
Alors là, ça veut dire que c'est difficile à exploiter. Donc pour les libéraux en économie, alors là, une forêt, ça me dit rien, mon gars. Mais alors sur qui compter pour retrouver des forêts dignes de ce nom? Nos soi-disant représentants, oula, pas sûr. En juillet 2021, le ministre de l'Agriculture du moment, Julien de Normandie, signa avec une dizaine d'autres de ministres de représentants 10 pays de l'Union européenne une lettre pour demander à revoir le texte sur les forêts passant devant la Commission européenne. La stratégie Forêt 2030. Ouais, il y a toujours des noms incroyables. Ces 11 pays, Finlande, Autriche, Hongrie, Allemagne, France, etc., commençaient comme ça, cette lettre commençait comme ça. Nous sommes profondément préoccupés par le projet de stratégie forestière de l'Union européenne qui circule actuellement. Il manque beaucoup de compréhension du rôle multifonctionnel des forêts et du secteur forestier. Il ne tient pas compte de la compétence des États membres et des objectifs clés de la Commission en matière de croissance verte, tout en réduisant les forêts à des considérations environnementales et en ne tenant pas compte des aspects socio-économiques. C'est inacceptable. Eh ouais, les aspects socio-économiques doivent primer. C'est tout de suite beaucoup plus clair pour des libéraux. Bah écoute, une forêt, c'est un truc qui doit rapporter du pognon. Quand tu me parles de faune, de flore, de biotope, eh ben tu m'as éloigné de mon objectif premier. Produire de la richesse, pourquoi? Bah pour produire de la richesse, oui, mais pourquoi? Bah pour accumuler de la richesse. Puisque le but des libéraux, c'est encore d'être toujours, toujours plus riche. Riche de quoi? Mais riche de pognon. Alors riche de biotope, riche de faune, riche de flore, là, ça leur parle pas du tout. Ben forcément, hein, c'est tout de suite plus clair, tu enlèves le socio, tu gardes économique, et puis ben voilà, garde ça, tiens. Nous voyons bien que la notion d'écosystème n'entre pas en compte dans les visées libérales à l'œuvre dans la gestion des milieux, même dans la définition de la FAO, l'administration qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation qui dépend de l'ONU, on peut lire comme définition d'une forêt... Terre occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%. Et avec des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante. Eh, dans ton histoire de forêt, là, où sont les ruisseaux? J'ai pas entendu parler de trous d'eau non plus, d'étangs. Tiens, les mousses! De la mousse, bah si, de la mousse en forêt. Des lichens, des champignons, des arbustes, des plantes épiphytes. Ah, les plantes épiphytes, celles qui se collent aux autres plantes, sans les bouffer, c'est pas des parasites en fait. Ouais, bah, on apprend des trucs. Hein. Les insectes, les petits mammifères, les oiseaux, j'en passe et du meilleur, bah ça a disparu. Ça a disparu de la définition. Et voilà comment nos soi-disant représentants peuvent se targuer d'un pays qui possède une forêt en bonne santé, en se basant sur la quantité d'arbres. Et tant pis pour les milieux qui se dégradent, voire qui disparaissent. Des milieux forestiers qui s'atrophient, voire disparaissent, pour notre plus grand malheur, car la forêt, la vraie, avec la faune et la flore, nous rend bien des services. Et puisqu'il faut essayer de prouver tout ça, ben on a redemandé à Alain Persuis ce qu'il en pensait.
Puisqu'on est dans un monde où il faut trouver un intérêt à tout, quels sont les intérêts que l'on pourrait trouver à avoir une forêt comme vous la décrivez actuellement, plutôt que de la lignée culture?
Eh bien, parce que les forêts que l'on défend, nous, forestiers écologues, on s'appelle entre nous les forestiers résistants, justement, à cette évolution des choses. La forêt telle qu'on l'entend, elle produit du bois, elle produit des aménités. On va se promener en forêt parce qu'il y a des couleurs en automne, par exemple. Une monoculture des résineux, c'est toujours la même couleur, c'est assez sinistre. Dans une forêt de feuillus, c'est tout à fait autre chose. On défend une forêt qui est riche en vies animales et végétales. Quand on va se promener en forêt, c'est aussi pour voir éventuellement des animaux, du chevreuil, des cerfs, enfin tout ce qui peut vivre dans nos forêts. Les forêts qu'on défend sont des forêts qui, elles, stockent d'une manière efficacement le gaz carbonique, donc nous permettent de lutter en partie contre l'évolution et le changement climatique. On va tout droit vers plus 3, plus 4 degrés, c'est plus possible. Donc si vous voulez, nous on défend un petit peu l'intérêt général dans tout ça. On défend l'intérêt de la vie d'une manière globale, la vie des arbres et la vie des hommes. Pour nous, on lie ces deux choses-là. Parce qu'on fait en sorte que la forêt ne soit plus considérée comme étant une usine, tout simplement.
Il apparaît que, pour ce que j'ai lu en tout cas, les forêts servent aussi quelque part de dépolluant, notamment ça peut piéger un certain nombre de polluants, ça permet le maintien du sol aussi, éviter les ravinements, etc. Donc il y a d'autres intérêts même au-delà de ce que vous avez dit, à la présence de forêts, mais de vraies forêts.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que j'avais très brièvement évoqué en parlant de protection de l'eau. Les végétaux sont capables de faire ce qu'on appelle la phytoremédiation, un terme un petit peu savant, qui consiste tout simplement à dire que les arbres sont capables de casser les molécules chimiques des polluants, y compris des polluants les plus lourds, les plus dangereux, y compris d'ailleurs des matériaux radioactifs parfois. Ils sont capables de casser la radioactivité, le strontium notamment. Donc ça fait partie des arbres, effectivement, les arbres des éléments qui nous permettent de garder un environnement le plus sain possible. Ils ne vont pas faire des miracles non plus, hein. On ne peut pas leur demander à la forêt de pallier à toutes nos inconséquences, mais c'est quand même un élément dans tous les pays de l'Est, par exemple, et notamment en Allemagne, où je suis allé plusieurs fois. L'Allemagne de l'Ouest a récupéré l'Allemagne de l'Est, qui est extrêmement polluée par quelques dizaines d'années d'occupation soviétique. On a décontaminé des sols en replantant des forêts. Alors ça, c'est une chose, et je parlais de l'Allemagne, les habitants de la ville de Munich ne payent pratiquement pas leur eau potable parce que l'eau potable vient des forêts de feuillus qui ont été préservées par le gouvernement allemand et par les landes allemandes sur lesquelles se situent ces forêts. Donc c'est vraiment un allié dans une vie de bien meilleure qualité.
Alors on reprend une forêt, hein, pas une plantation, non, une forêt. Ça aide au maintien du sol pour éviter les ravinements à la moindre pluie. Ça permet de mieux stocker le fameux CO2. Tiens, ben on a parlé d'une étude parue sous la direction d'un certain N.L. Stephenson. Non, je leur dis parce qu'il y a des gens qui me disent des fois « Ouais, mais ce que tu racontes, peut-être que là, c'est dans le numéro 507 de la revue Nature en janvier 2014. » Donc, ça améliore également la biodiversité. Une forêt, toujours essentielle à la vie, la biodiversité. Et en plus, la forêt peut dépolluer l'eau. Par exemple, en parant les cours d'eau de ripisylve, des couloirs plus ou moins larges de forêts, d'arbres, mais aussi du reste, hein, c'est-à-dire c'est pas des plantations qui bordent les cours d'eau. Par leur action de phytoremédiation, les arbres et les autres plantes réduisent les polluants qui arrivent dans le même cours d'eau. Alors la phytoremédiation, ça peut se faire à travers plusieurs mécanismes. La phytostabilisation, les polluants sont précipités, absorbés ou piégés par la plante, ce qui diminue donc leur mobilité dans le sol. La phytoextraction, les polluants sont absorbés par les racines, puis sont amenés vers les parties aériennes où ils sont accumulés dans la plante. Bon, il faut peut-être pas la manger. La phytodégradation, les composés organiques polluants sont transformés en substances non toxiques par des réactions enzymatiques dans le sol et dans la plante. Et mon préféré, la phytovolatilisation. Le polluant est volatilisé sous une forme non toxique. Voilà, t'étais un polluant, et ben là, je te volatilise. Et ben, c'est pas tout. Les arbres et les plantes se défendent contre des agressions. Les végétaux, peu mobiles, c'est le cas de le dire, ont développé des mécanismes pour empêcher ou réduire l'action des champignons, des insectes, des bactéries. Notamment, ils produisent des phytoncides. Alors attention, c'est pas phytocide, bah ça y est, je renverse tout. C'est pas les phytocides, hein. C'est pas tous les trucs qui permettent de buter justement tout ce qui est plante. Non, non, phytoncide, il y a un N qui traîne quelque part. Ce qui purifie l'air, un certain Peter Vollenbell. Forestier écologue allemand, a écrit un best-seller intitulé « La vie secrète des arbres » qui a été adapté en BD en 2023 aux éditions Les Arènes BD. Eh bien, extrait de cette BD, pages 67 à 69. Alors, au-delà des dessins, voilà les informations données dans les bulles. Alors, il voulait devenir ingénieur forestier. « Je deviendrai ingénieur forestier et me baladerai tous les jours dans les sous-bois. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer que marcher parmi les arbres améliore la tension artérielle, la capacité pulmonaire et la souplesse des artères. C'est pourtant le cas et les effets persistent plusieurs semaines après la balade. À l'inverse, il a été prouvé que la marche en ville n'induit aucun bénéfice de ce genre. L'atmosphère des arbres offre un air pur et sain car les arbres sont d'excellents filtres à pollution. Avec leurs feuilles, ils captent jusqu'à 7000 tonnes au kilomètre carré des particules en suspension dans l'air. En été, un kilomètre carré de forêt rejette 10 tonnes d'oxygène par jour, quand un homme ou une femme n'en consomme qu'un kilo également par jour. Une promenade en forêt permet une véritable cure d'oxygène. Les Japonais parlent carrément de bain de forêt. Les arbres assainissent l'air, mais pas seulement. Ils émettent aussi des phytoncides, substances répulsives performantes contre les parasites et les microbes, dont je vous reparlerai plus tard, les conifères notamment. D'ailleurs, les personnes allergiques qui font de la randonnée en ressentent immédiatement les bienfaits. Ah ben tiens, il en reparle là. Émis en quantité, les phytoncides ont une action bénéfique sur notre système immunitaire. Ce sont eux qui offrent le sentiment de bien-être pendant une balade dans les bois et les forêts. Oh lolo ! Et après aussi, ça dure un certain temps, des bains de forêt, vous imaginez? Autant de services rendus à l'humanité et au reste des êtres vivants par des végétaux organisés en forêt, qui sont aussi mis en avant dans des textes régulièrement soumis à la population par les professionnels. Professionnels de l'ONF par exemple, des écologues, des associations de défense du vivant comme le Manifeste du Troncet. Ce manifeste signé par une vingtaine de syndicats et d'associations est prononcé solennellement, je cite, ce 25 octobre 2018, au pied des chaînes pluricentenaires de la forêt domaniale de Troncet. On est dans l'Allier. Ce manifeste fait suite à un mouvement des salariés de l'ONF durant toute l'année 2018 avec le soutien d'associations de défense du vivant. Et là, il rappelle à quoi sert une forêt, ce que l'on peut y trouver et pourquoi il faut la garder. On aurait pu aussi vous citer l'appel pour des forêts vivantes, paru en août 2021 sur le site de la revue Terrestre, terrestre.org, excellente revue en ligne. Ces textes émanent plutôt de professionnels et d'associations. Mais nous, les Pékins moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les nuisances des lignicultures et contribuer à la conservation des forêts vivantes? On retrouve Alain Persuit une dernière fois.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen, là, rapidement, facilement, enfin je ne sais pas d'ailleurs, même plus difficilement, pour essayer de sauver les forêts?
Oui, mais c'est un peu le sous-titre de mon livre, c'est-à-dire Petit Manet de résistance citoyenne. Tout le monde n'est pas propriétaire de forêt, n'est pas technicien forestier, n'est pas ingénieur forestier. Par contre, quand on achète du bois, eh bien on regarde s'il y a un label. Il y a des labels qui sont de qualité, il y a des labels qui sont vraiment pas de bonne qualité, donc ça je l'explique. Quand on achète du bois pour se chauffer, mieux vaut acheter du bois bûche venant d'une forêt exploitée traditionnellement que du pelet qui vient de plus en plus de forêts exploitées d'une manière industrielle. Quand on a des députés qui nous représentent, eh bien on les interroge pour savoir s'ils sont d'accord pour faire évoluer la loi forestière dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Il y a tout un tas de... Il y a la création de groupements forestiers. Je fais partie d'un groupement forestier pour défendre les feuilles du Morvan. Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter une forêt de 500 hectares. On s'est réunis, par exemple, dans le Morvan. On est 1200. On est propriétaire de 470 hectares de forêt, de feuillus, qu'on a sauvés de l'enrésillement massif. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. L'achat d'une part de groupements forestiers, ce n'est pas très onéreux. Donc n'importe qui peut le faire.
Ah oui, des petits trucs comme ça, mais aussi par exemple bûche plutôt que pelet. Oui, les pelets, ce sont les granulés de bois. Fabrication à partir de déchets de bois, des tiges de maïs par exemple, du bois broyé, compressé, avec parfois des additifs pour qu'ils se tiennent mieux, ces granulés. Ça peut pas dépasser 2% du poids du produit sec pour respecter la norme allemande DIN+, qui est la meilleure, la plus contraignante dans l'Union européenne. Bon, pour un kilo, ça fait 20 grammes de trucs qui va brûler dans ton poêle, des additifs, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Pour une tonne, on arrive à 20 kilos quand même. La bûche, faut la couper, mais c'est beaucoup plus sain que le pelet et moins énergivore, parce que le pelet, il a fallu le fabriquer. 2 à 3 kilowatts d'énergie consommée pour produire des granulés qui vont rendre 10 kilowatts d'énergie pour le chauffage. Encore, je compte pas le transport, donc beaucoup d'énergie gaspillée pour produire de l'énergie. Alain Persuit parlait aussi de groupements forestiers, achat de parcelles de feuillus pour les protéger comme dans le Morvan, mais aussi plus près de chez nous, un exemple entre Anjou et Limousin avec l'association Aux Arbres Déchaînés. Vous avez un site tout attaché ausarbresdechaînes.com. Il existe donc une autre façon de penser nos rapports avec le reste du vivant. La nature dont nous faisons partie n'est pas un agrégat de ressources à exploiter pour accroître encore et toujours nos revenus. C'est de la vie. C'est de la vie qui contribue à la nôtre. Aussi, dans un égoïsme bien compris, il convient de cesser d'abîmer nos milieux de vie. Parce que sinon, on est en train de détruire l'humanité. Et la seule solution, c'est de devenir anticapitaliste. Oui, clairement. Et détrôner les libéraux qui nous gouvernent. Pour enfin remettre l'économie à sa place et développer nos liens avec notre environnement. Voilà, c'est dit. Moi, je préférais qu'on fasse comme ça. Juste petit commentaire à propos de l'adresse donnée dans l'interview, elle ne fonctionne plus, mais si vous tapez « Aux arbres déchaînés » tout attaché dans votre moteur de recherche préféré, vous avez une page Facebook qui s'affiche entre autres pour les contacter. Alors bon bain de forêt, que vous dire de plus? Eh bien que mercredi 25, il y a quelque chose à la préf aussi, le lundi 23, il y a un truc sur la sécurité sociale alimentaire. Mais où a-t-on toutes ces informations? Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sarthe.demosphère.net. Et si vous voulez en savoir plus aussi, n'hésitez pas à aller voir sur larnapé.info. Ils ont par exemple fait des posts cette semaine sur des candidats de... on n'a pas le droit de le dire. larnapé.info. Et en attendant de se retrouver, je ne sais pas trop où, je vous dis tout simplement allez Au revoir.